Afin de favoriser l'émergence de pratiques artistiques contemporaines dans l'espace public, la ville de Laval souhaite enrichir sa collection d'œuvres d'art. Les artistes professionnels en art actuel ou les galeries les représentant sont invités à poser leur candidature en ligne. Le processus est simple, gratuit et permet de soumettre une proposition d'achat et de la documentation. Les œuvres de la collection rayonnent dans les bâtiments municipaux de Laval et sur les plateformes web de la ville. Proposez votre œuvre en ligne entre le 23 janvier et le 31 mars 2024. Rendez-vous au culture.laval.ca, cliquez sur Art public et collection d'œuvres, puis appel aux artistes.
Il y a mille et une façons de s'emparer d'un sujet. Une infinie de chemins qui portent en eux des questionnements semblables. Et s'il y a bien une chose qui me fascine et que j'admire chez les artistes visuels, c'est leur capacité à investir l'angle qui les appelle. Cette liberté et cette dévotion me bouleversent par leur puissance. Depuis le début du podcast Sous la fibre, j'affirme que derrière l'art se cachent des êtres vivants, animés de désirs et de défis, et leurs œuvres d'art sont des langages à part entière, qui semblent toutes dissimuler une porte vers un nouveau sujet. Dans cette série de discussions nommée Transversale, je m'entretiens avec des artistes visuels œuvrant dans des disciplines différentes autour d'un thème, d'un sujet ou d'une réalité similaire qui traverse de manière singulière leur pratique. Vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui donne une voix aux artistes visuels. Salut, ici Claire-Marine Béa. Je voulais prendre un petit instant pour remercier toutes celles et ceux qui prennent le temps de mettre des bonnes notes au podcast sur les plateformes d'écoute, mais qui s'abonnent aussi à l'infolettre et qui n'hésitent jamais à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Tous ces petits gestes, tout votre soutien, ça fait une différence, puis ça m'aide à faire évoluer le podcast, puis à vous offrir plus de contenu. Merci tellement. Je l'ai effleuré déjà à quelques reprises dans mon infolettre, mais si le corps est un sujet incontournable en art, il a été grandement modelé et déformé par le regard dominant, le regard masculin, afin de devenir un objet de domination et de désir. Mais la colonisation, elle a également effacé de nombreux corps de cette grande histoire de l'art quand elle ne les a pas complètement exotisés, ostracisés, stéréotypés. Heureusement, plusieurs artistes remettent les pendules à l'heure en offrant des corporalités alternatives où il fait bon être imparfait ou imparfaite, vieillir, sortir de la norme, provoquer la binarité, reprendre son pouvoir, interroger la laideur et faire exploser nos croyances sur la beauté et son règne. Dans l'épisode précédent, la thématique de l'autoreprésentation nous enseigne que le corps est un instrument de lutte directe. C'est pourquoi le corps me semble être par nature dissident. Puisqu'il n'est pas image, mais mouvement, quel objet formidable à forger et observer. J'aime les corps flétris dessinés par Alice Neal, notamment son autoportrait où elle pose dans son fauteuil, nue, âgée, les seins tombant sans avoir l'air de s'excuser. J'aime la bizarrerie de certaines sculptures de Louise Bourgeois qui ressemblent à des organes génitaux puis qui provoquent notre regard par leur ambiguïté. J'aime les silhouettes fragiles, faites en papier, en céramique ou en tissu, de Kiki Smith, parce qu'elles me semblent si vivantes et pourtant si anonymes. J'adore l'audace de Toufik qui expose et performe la versatilité de son corps, capable d'engendrer de multiples identités. J'admire l'insolence de Ken Monkman, qui réécrit l'histoire à travers des personnages flamboyants qui perturbent nos conceptions. Je m'émeus de la vigueur avec laquelle l'artiste No Anger œuvre à la réhabilitation du corps handicapé et lutte contre le capacitisme grâce à l'art. Je suis captivée par la poésie du récent projet de Sarah Séné, ayant pris pour sujet des femmes vivant avec un membre amputé. Et puisque cette liste d'appréciation doit éventuellement s'achever, même si j'aurais vraiment pu continuer longtemps, vous l'aurez compris, j'ai été profondément marquée par la manière dont l'artiste Teresa Maria Diaz Nerio a rendu hommage à Sarah Bartman, surnommée la Vénus Hottentote, cette femme noire qu'on a déshumanisée pour son physique qui ne correspondait pas aux standards. Dans cet épisode, deux artistes puisent dans les sujets de la maladie, de la nudité, de la pilosité, de l'aliénation des standards, mais aussi du corps en tant que lieu d'oppression, en se penchant sur le corps comme outil et en tant que catalyseur de réflexion et d'affranchissement. La première prise de parole est celle de l'artiste Camille Raupert, qui vit entre le Québec et la France. Cette photographe et réalisatrice, dont la démarche se situe à mi-chemin entre le documentaire et la mise en scène, s'intéresse au corps en tant que sujet agentif et évolutif, à travers le prisme de la maladie ou encore celui des injonctions qui pèsent sur les corps traditionnellement féminins. Comment le corps et l'esprit intègrent-ils les multiples métamorphoses? Teintés de symboles percutants, d'une approche empathique, et d'un brin d'humour réconfortant, ces images et ces films font la part belle aux réalités humaines parfois indicibles, celles vécues profondément dans la chair.
J'ai pas du tout été éduquée à l'art. La façon dont moi je me suis familiarisée avec l'art, c'est à la fois par mes rencontres et par mes voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Et puis la deuxième chose, c'est par les récits qu'on m'a racontés, parce que mon père a beaucoup voyagé et a été marin quand il était jeune. Mon lien à l'eau, je pense qu'il vient certainement de là. Et puis mon lien au corps, j'ai été gymnaste et circassienne pendant une vingtaine d'années. J'ai eu pour habitude très tôt d'analyser le corps et ses postures, d'apprendre à gérer mon corps dans l'espace et d'observer le corps des autres dans l'espace d'un point de vue technique, en fait. Et je pense que c'est par ces portes-là que je suis rentrée dans l'art. Mon désir de rendre justice et ma volonté de m'engager et de porter ma voix qui m'a encouragée, en fait, à créer.
Justement, est-ce que tu veux me parler un peu de ton parcours et notamment du concours que tu as gagné par rapport à la thématique des cicatrices physiques et psychologiques qu'ont laissé la maladie, le cancer, en fait, sur ta maman?
Ma mère est tombée malade lorsque j'avais donc 18 ans. Donc elle a eu un cancer du sein qui a été soigné sur une période de 3 ans avec la reconstruction comprise. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait après toute cette période de maladie-là, c'était de réaborder le sujet, mais sous un autre prisme. Déjà de savoir comment elle se sentait, parce que c'est clair que ça a un impact très fort, bien sûr, sur la personne qui le vit, mais aussi sur la famille. Donc moi, c'était intéressant pour moi, en fait, de l'aborder, de voir ce que elle ressentait, mais de pouvoir aussi moi communiquer avec ma mère sur ce que j'avais vécu et sur la façon dont je la voyais aujourd'hui. Ouais, ce qui est venu métamorphoser un peu notre vie, quoi, d'essayer d'amorcer une discussion avec mon père, parce que lorsque ma mère était malade, mon père restait très discret. Et moi, j'avais pour ambition de le faire parler. Et j'avais envie de faire un peu éclater tout ça au grand jour, tu vois. Ce concours-là, en fait, il m'a servi d'excuse à la base. J'avais vraiment pas pour ambition de remporter un prix. C'était vraiment une excuse pour pouvoir justement amorcer une discussion. Donc j'étais dans les finalistes et puis donc avec mes parents on a été invités au Palais Chaillot, donc quand même un lieu assez mythique à Paris, en face de la Tour Eiffel. Puis il y avait l'illumination de la Tour Eiffel en rose ce soir-là pour Octobre Rose. Enfin c'était assez particulier comme moment. Et donc j'ai été appelée à venir sur scène et à parler donc devant le public avec mes parents. Et je crois qu'en fait c'est la première fois que j'entendais du coup parler mon père de la maladie et à quel point ils avaient surmonté ça ensemble et à quel point ils étaient amoureux plus que jamais. Donc il y avait quelque chose de très fort. Et en fait, ça m'a donné envie de faire mon projet Reprendriez-vous bien un peu de thé parce que j'ai vu que potentiellement une image pouvait débloquer des choses. Et là, bon, c'était un contexte particulier. Il y avait du monde autour, il y a des gens qui sont venus les voir en les félicitant de se montrer aussi comme ça, parce que du coup, je les ai positionnés tous les deux dans une salle à manger, ils étaient torse nus l'un en face de l'autre. Donc c'est sûr qu'il fallait quand même le faire. Mais au-delà de l'image en tant que telle, il y avait pour moi une volonté de créer en fait des liens de communication. C'est la nuit même, en fait, j'ai pas réussi à dormir et c'est cette nuit-là que l'idée de mon projet Reprendriez-vous un peu thé est née, en fait. Je me suis dit, ben, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans d'autres familles, j'ai envie de savoir comment ils et elles ont vécu le cancer, comment ils et elles le vivent encore.
Donc, si je comprends bien, ça a vraiment été un tremplin, ce premier concours, puis ce projet un peu familial pour la série documentaire photos et vidéos Reprendrez-vous un peu de thé. Donc, tu le disais, t'as rencontré des personnes qui ont été atteintes d'un cancer du sein. Puis, il s'agit quand même de mise en scène. On est souvent chez eux, en tout cas. Mais est-ce que tu veux me parler un petit peu plus de ce qui se passe dans ces images, puis de comment t'as créé ce projet-là?
Ce qui était important pour moi, c'était de comprendre comment ces personnes évoluaient ensemble en famille, dans leur quotidien, de savoir ce qui les avait touchés, de faire en sorte en fait qu'elles communiquent aussi ensemble. Certaines de ces personnes-là m'ont utilisé à leur tour comme excuse pour pouvoir reparler de ce moment de vie. Parce que c'est pas simple en fait à aborder. Comment se sent son père, sa mère ou ses enfants profondément. Je pense que c'est vraiment difficile d'aborder le sujet pour certaines familles en tout cas. Cette première étape, c'était vraiment celle de la rencontre, de l'échange, de savoir ce qui les avait marqués psychologiquement, physiquement aussi. Comment elles ont vécu la maladie et comment elles s'en remettent. Parce que c'est vrai aussi qu'on parle beaucoup de l'étape du cancer, des suivis, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des opérations. Mais une fois que le corps médical se retire, beaucoup de personnes me l'ont dit d'ailleurs, il y a une forme de vide et il y a cette reprise dans la vie comme avant, mais en fait c'est plus comme avant. Comment ces personnes se réapproprient leur quotidien? Comment elles se réapproprient leur corps? J'aurais proposé en fait des mises en scène par rapport à ce que ces personnes m'ont raconté, donc ce qui ressortait en fait vraiment de nos discussions. J'ai choisi des choses et puis on en a parlé, puis je leur ai demandé si je les fais poser de telle manière ou de telle manière, est-ce qu'elles se reconnaîtraient? Bien souvent, c'était un oui.
J'ai l'impression qu'il y a presque une notion de jeu quand on regarde ces images-là. Il y a quelque chose de ludique. On a l'impression que le côté mise en scène, pas nécessairement que ça ajoute une légèreté, parce que ça reste un traumatisme, la maladie, bien sûr. Même si on est en rémission, il y a tu le disais, là, c'est un changement du corps, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus. Ils se permettent d'être dans la légèreté, de s'incarner eux-mêmes. Est-ce que ça a été une intention que tu as eue?
J'ai continué avec l'idée justement de mettre les personnes toutes torse nues, donc hommes comme femmes. Donc déjà, il y avait cette idée de décalage qui était présente parce que les gens, quand ils vivent dans leur intérieur, ils sont pas forcément toujours torse nues. Donc, donc c'est sûr que il y avait un décalage et une forme d'humour qui était présente. Mais je pense que ça décomplexait les gens motivant aussi, en fait, de se dire « Ah tiens, on va faire quelque chose d'un peu différent ». Et il y avait forcément une forme de légèreté en disant « Bon allez, maintenant c'est le moment, tout le monde se dessape, on y va quoi ». Il y avait une forme de complicité en fait qui du coup naissait naturellement. Un corps, ça peut être drôle aussi, et c'est drôle de se mettre tout nu. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, ce qui est beaucoup revenu aussi, c'est cette volonté de laisser une trace, de laisser un témoignage par le corps. Donc moi, les photographies que je fais, je les appelle vraiment les témoignages corporels. Il y a une empreinte en fait qui est laissée, je pense, pour dire je m'en suis remise, je suis toujours là, je suis toujours vivante. Et puis il y avait une forme de revendication en fait hein, derrière, soit psychologique, soit physiquement aussi, parce que les personnes qui ont décidé de ne pas se faire reconstruire, il y en a beaucoup. Donc il y a une volonté d'afficher son corps tel qu'il est, et de l'accepter, et parfois l'acceptation passe par l'image, passe par le fait de se montrer à soi et de se montrer aux autres.
En tant qu'artiste, c'est quoi les défis de réaliser un tel projet, c'est-à-dire d'aller se mettre un peu dans la bulle de ces personnes-là qui ont vécu une grande épreuve de vie? Ouais, les défis, comment est-ce que tu as approché ces personnes-là pour créer un lien de confiance, puis éventuellement les apprentissages que tu en as tirés?
J'ai eu la chance d'avoir été subventionnée par la Fondation de France pour ce projet-là. En fait, ils ont fait venir du coup une psychologue qui m'a rencontrée avant de m'accorder la bourse pour savoir si j'étais capable de supporter en fait toutes ces histoires de vie. Et elle m'a suivie tout au long du projet. Donc c'est un projet quand même que j'ai réalisé sur 2 ans. Je pense que ça m'a beaucoup aidée de savoir que j'avais quelqu'un derrière moi. Bah, ce que j'ai appris déjà, je pense, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on ne le croit qui souhaite partager son histoire. Je pense que ça fait avancer le soin du cœur, si je peux l'appeler comme ça. C'est que il y a beaucoup de personnes qui ont en fait un besoin de communiquer sur ce qu'elles ont vécu. Et ça peut pas se faire en fait au sein de l'hôpital. J'ai appris énormément de choses, mais je pense que ça m'a aussi préparée pour le futur, enfin pour ma pratique en fait. Depuis que j'ai envie de faire de l'art, c'est le documentaire qui m'a toujours parlé, et c'est le documentaire qui m'a portée. Mais un projet de cette envergure-là, avec des personnes différentes, ça m'a permis quand même de me rendre compte que j'avais une capacité d'adaptation en fait. Et je me suis beaucoup toujours reproché de m'adapter trop à tout, finalement, ça peut être une qualité aussi.
C'est quand même un projet qui s'intéresse aussi à la métamorphose du corps, et t'as notamment suivi Géraldine, une des personnes qui fait partie de ta série, à travers son processus de reconstruction mammaire. Bon, c'est sûr que là, il y a toutes les thématiques du changement, de l'acceptation, d'avoir aussi quelque chose de nouveau dans son corps, c'est pas rien non plus.
Je voulais pas simplement juste la filmer ou juste faire une photographie après sa reconstruction. J'avais envie vraiment de développer en fait ce que c'est qu'une reconstruction, parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre chirurgie reconstructrice et chirurgie esthétique. Ce sont des choses qui sont très différentes. Et en fait, en fonction du cancer, en fonction de ton âge, en fonction de ta santé et en fonction du chirurgien qui opère, les reconstructions peuvent être très différentes les unes des autres. En l'occurrence, là, la reconstruction qu'elle a vécue, Géraldine, c'est la reconstruction par le lambeau. Donc il s'agit de prendre un muscle fin du dos pour le retourner et le mettre dans la poitrine. C'est une reconstruction qui prend des mois. Donc en fait, moi, Géraldine, je l'ai suivie sur 9 mois. Donc il y a 6 photographies au final, mais c'est 9 mois de travail. Donc faut être déjà être sûr de son choix, parce que c'est beaucoup de douleurs et c'est beaucoup de métamorphose psychique, mentale, évidemment physique. Ce qui m'a semblé pertinent, c'est justement de venir montrer ces différentes étapes en fonction de comment elle se sentait quand elle les vivait, quoi.
Ah, c'est super intéressant parce que ça donne une visibilité à quelque chose qu'on oublie beaucoup. Tu parlais tantôt, on parle beaucoup du cancer, de l'épreuve pendant, mais le post-cancer doit être tellement compliqué à gérer. Puis, en effet, si on fait le choix ou si on a le choix d'une reconstruction, c'est encore un bouleversement pour le corps qui a déjà beaucoup lutté avec les traitements. Donc, C'est pas fait en 2 secondes, là. C'est pas juste une opération, puis on rentre à la maison, puis on oublie la maladie. Ça reste.
On retrouve pas le sein qu'on avait avant. C'est se réapproprier un corps étranger. Et puis, c'est vrai qu'on attend toujours des femmes d'avoir de beaux seins bien ronds, mais une reconstruction, enfin, ça a vraiment des conséquences sur le corps. Ma mère a eu la même opération par le lambeau dorsal. Bah, aujourd'hui, elle a des problèmes de dos. Donc, il y a des conséquences qui sont réelles. Et donc, la question de se faire reconstruire ou pas, elle est vraiment légitime. Le souci, c'est que, en fait, on attend d'une femme qu'elle soit femme, et donc pour être femme, bah il faut avoir 2 seins, faut avoir des belles courbes, mais pas trop, faire une certaine taille, et puis avoir une certaine longueur de cheveux, enfin toute une panoplie de clichés de la femme parfaite qui viennent aussi nourrir les décisions, et c'est des décisions qui ont quand même beaucoup de conséquences. Donc c'était ma volonté aussi de déconstruire un petit peu tout ça à l'époque. Est-ce que ça vaut la peine? Et moi, j'ai pas la réponse, je l'ai pas vécu. Pour certaines femmes, non. Ou d'autres femmes sont passées par le tatouage. Et c'est correct aussi. Je pense qu'il y avait aussi une volonté de, finalement, représenter d'autres corps féminins. Enfin, qu'est-ce que c'est le féminin?
Non, mais je comprends bien qu'il n'y a pas de jugement de ta part selon le choix de la personne qui a été malade. C'est plus de démontrer qu'il y a une certaine pression à performer quelque chose, et forcément, ça vient aussi de pair avec le deuil du corps qu'on avait auparavant. Et tout ça, c'est lié, puis c'est compliqué, puis ça s'entrelace, et forcément, le sujet est porteur. Je vais te lancer sur ta série Limné, qui est une série plus récente. Ton projet Limné, il nous entraîne dans les profondeurs aquatiques. Tu parlais tantôt de ton lien avec l'eau. Et on y voit des corps perçus comme traditionnellement féminins, qui nagent ensemble sous l'eau, qui s'entrelacent parfois. C'est très onirique comme image, esthétiquement. Tu le dis toi-même, il y a parfois des scènes de chaos, mais parfois des scènes beaucoup plus apaisées, beaucoup plus éthérées. Et au final, on y voit parfois aussi une substance rouge qui pourrait connoter à la fois les menstruations, mais qui connote aussi le sang qui peut être issu d'actes violents. Donc, pas mal d'ambiguïté. Qu'est-ce qui se passe dans ces images? C'est qui, c'est Limné?
Ça fait des années que je travaille la photographie sous l'eau. Mais j'avais très peu en fait travaillé encore dans les lacs, et ça m'attirait beaucoup dans des eaux moins claires en fait pour m'amuser un peu avec les sédiments présents dans l'eau. Mes premières photographies en fait m'ont évoqué l'imagerie des nymphes, m'intéressant un petit peu à l'histoire de l'art, les idées allégoriques de nymphes et de déesses, de très fortes connotations pour moi, de femmes parfaites qui sont là pour séduire les hommes, pour être à leur service. Et en fait, il était hors de question que je fasse une série qui serve ce propos-là. J'ai beaucoup réfléchi en fait à la représentation des corps, à l'héritage aussi en fait qu'on recevait nous de ces images-là. Comment elles sont venues nourrir en fait nos imaginaires, et j'ai eu envie de créer mon propre monde avec mes propres nymphes comme je pourrais les imaginer aujourd'hui. J'ai beaucoup construit en fait ce projet-là à partir de ce que j'ai pu lire de l'autrice Iris Bray, qui est réalisatrice aussi maintenant. Iris Bray, en fait, elle a vraiment mis sur le devant de la scène le concept du female gaze, la perception du corps au cinéma, du corps féminin au cinéma, et pas que féminin en fait.
Tu prends le contre-pied du male gaze, qui est ce regard unilatéral du masculin vers la femme, et qui crie pour le masculin.
C'est ça, tu le dis beaucoup mieux que moi finalement. Ce qui m'a subjuguée, en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour écrire sur ce projet, je suis tombée sur des femmes de médecins, de philosophes de l'époque, en fait, qui étaient vraiment considérées comme les savants de l'époque. Et les peintres s'en inspiraient, en fait, vraiment pour leur peinture. Et à l'époque, d'ailleurs, j'avais noté une phrase quand même, j'aimerais bien te la lire, parce que je la trouve quand même incroyable. Donc c'est une phrase qui a été écrite donc par un auteur et un médecin, Max Nordau, et il dit, donc ça a été publié dans des ouvrages très sérieux, « La femme est un principe typique quand l'homme est individuel. Il y a incomparablement moins de variations entre les femmes qu'entre les hommes. Lorsqu'on connaît une femme, on les connaît toutes à quelques exceptions près. » Je trouve que cette phrase résume bien la pensée qu'on pouvait avoir sur les femmes à l'époque et ce qui est représenté finalement dans les tableaux. La façon dont elles sont représentées, c'est soit donc des figures allégoriques, donc des femmes qui sont là pour servir un peu les fantasmes des hommes, soit c'est des femmes maléfiques. Et dans ce cas-là, il faut les jeter au feu et les brûler. Et puis sinon, il y a les femmes qui sont domestiques et donc là qui sont enfermées dans le lieu domestique pour vraiment nourrir les enfants et s'en occuper, qui sont là pour procurer le soin justement. Et donc les limnées, les nymphes des lacs, ce sont les femmes qui sont là donc pour provoquer du désir chez les hommes et qui sont dans une relation en fait de dépendance aux hommes, qui sont incapables d'agir seules avec leur libre arbitre. Donc quand on sait ça, on sait aussi ce sur quoi on s'est construite. On sait aussi ce sur quoi les hommes se construisent encore aujourd'hui. Moi, j'avais envie de penser des nouvelles représentations. Ça ne veut pas dire qu'il faut brûler toutes les peintures de l'époque, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre absolus, et c'est vraiment pas ce que je dis. Mais par contre, les questionner, je pense que c'est primordial aujourd'hui. Je pense que c'est important de se questionner sur notre héritage et d'ouvrir les yeux, en fait, sur ça. Donc moi, ma volonté, ça a été vraiment de créer du mouvement sous l'eau, d'arrêter, en fait, de représenter des femmes qui sont passives, de mettre en action des corps. Avant d'aller dans l'eau, il y avait toujours en fait des grandes discussions, des formes de grandes réunions où j'allumais un feu et puis on discutait autour du feu, beaucoup de bienveillance. J'ai adoré ces moments-là, vraiment j'ai adoré. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces personnes-là, elles se connaissaient pas avant de s'immerger ensemble, nues sous l'eau. Donc c'est un gros lâcher-prise dont il faut faire preuve. Ces personnes-là ont été magiques, c'était incroyable. Mais donc on partait dans l'eau en se disant, on va prendre la place, on va prendre l'espace. Ouais, c'était hyper fort.
Mais c'est intéressant parce qu'on la sent, cette complicité, cette sororité, cet entrelacement des corps. Tu dis qu'elles prennent la place, c'est sûr qu'on les voit pas du tout dans une posture passive, érotisée, un peu malsaine, de l'ordre de l'érotisation du male gaze auquel on est habitué, même s'il peut y avoir plusieurs formes. On les sent quand même dissidentes, agentives, assumer leur corps. C'est sûr qu'après, on pourra y mettre l'interprétation qu'on souhaite, mais moi, c'est ce que je ressentais. Je ressentais des femmes avec des corps normaux en train de prendre de l'espace, de communiquer ensemble par le mouvement.
Petit ajout au montage ici, les sujets des limnées sont des femmes, mais il y a aussi des personnes non-binaires. Ces deux catégories de personnes sont fréquemment soumises au male gaze, dont l'artiste détricote les codes dans cette série.
En fait, j'avais une vraie volonté de montrer le corps nu, sans le sexualiser, d'où le female gaze. Il n'y a pas de position suggestive ou quoi que ce soit. Et moi, j'avais envie de rendre au corps ce qu'il a. Enfin, il n'a pas qu'une enveloppe, en fait. Il y a une personne, il y a des émotions, il y a des volontés, il y a des actions, des engagements derrière. Et ces personnes-là, elles sont venues avec tout leur bagage. Et ce bagage-là, j'avais envie qu'il s'exprime à travers l'image. Toutes les actions qui sont faites sous l'eau, elles sont inspirées des discussions avec les personnes que j'ai photographiées. Tu parlais du liquide rouge, ça peut évidemment dire plein de choses. Mais pour moi, c'est aussi, tu sais, ça donne un peu un côté fumé. C'est vraiment une forme de poudre de canon, de fumée qui explose. Il y a quelque chose d'assez révolutionnaire pour moi. Révolution, transgression peut-être, métamorphose sûrement aussi.
Mais j'aime beaucoup le côté aussi permission que ces corps-là se sont donnés d'être nus dehors, sans que ce soit par rapport à la sexualisation, vraiment cette permission d'être ensemble. Et de cette façon, je trouve que tu viens contrer l'essentialisation qui voudrait que femme égale nature, que oh, on a toujours représenté les femmes dans la nature, proche de la nature, mais tu viens un petit peu relativiser ce point-là parce qu'il y a une complicité, il y a une remise en question. Le corps, il est pas là justement pour être, pour faire beau, pour être un ornement, une petite fleur. Là, il est comme, il y a des...
Ah bah, complètement. Je me suis beaucoup inspirée aussi de Camille Froide-Vaumétry, qui est une autrice philosophe française. Elle parle beaucoup, en fait, de l'approche phénoménologique. Elle se concentre, en fait, sur l'expérience vécue du corps. Et moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre au centre, de faire ressentir que ces corps-là vivent et ressentent, ouais, ils font pas partie du décor. Ils utilisent le décor, ils s'en servent.
I think it was ancient Greece where there were these like chosen women to take care of this fire. They had to tend to this fire 24/7. I wish I saw some sort of talk on it. And it was this spiritual fire, and it was women who were the fire keepers. And then, but they were also, when something bad would happen, I think they were also the ones that had to be sacrificed in this fire. So you spend your whole life tending to this fire, and then when the crops are bad, you get murdered. It was very dark.
From the beginning of time, women have been associated with nature. Like the trees, the flowers, the sun setting on a lake. We are the decorations. We are part of the landscape.
Qui fait partie également du projet Limné, c'est un documentaire fiction qui s'appelle « Les pommes flottent, les perruques coulent », où est-ce qu'on suit Angela qui justement va au bord d'un lac au Québec pour, on le comprend, camper. Puis éventuellement, c'est quand même un récit qui se situe entre l'aliénation et l'émancipation, parce qu'elle vit toutes sortes d'émotions, pas nécessairement positives. On la sent très... à l'étroit par rapport aux injonctions qui pèsent sur elle, puis elle essaye de s'en libérer, mais c'est une œuvre puissante. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Comment est-ce que tu as voulu décliner l'hymner avec ce docu-fiction qui se concentre sur ce personnage-là?
À la base, c'est un peu différent avec Angela parce que c'est une bonne amie à moi qui s'est faite photographier sous l'eau. Et je lui ai proposé, en fait, de lui donner le rôle principal dans mon film. Donc, c'est un film avec une petite touche expérimentale de 25 minutes. Et dans ce film-là, effectivement, Angela apparaît, en fait, un peu comme, je dirais, la femme contemporaine qui campe en solo, qui fait son feu en solo, qui en fait est très indépendante. Mais pour autant, en fait, il y a cet héritage qui pèse sur elle et qui est toujours présent. Encore une fois, je recite Camille Froide-Vaumétry, mais c'est elle qui parle en fait de cette double expérience qu'est l'aliénation et l'émancipation. Et j'avais envie, en fait, de mettre en image cette double expérience. Le fait, en fait, d'être un peu, parfois, de se sentir un peu dissocié entre ses envies, ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on peut pas faire, parce qu'il y a des choses, parfois, qui nous retiennent, sans qu'on les conscientise vraiment. Je pense qu'il y a énormément de femmes, en fait, qui vivent ce contraste-là. C'est un récit initiatique, en fait.
It's kind of nice to not have anyone around.
When I was 12, I got sick and could not eat for a week. I lost a bunch of weight. When I felt better, I went swimming with my mother in this lake. Her friend came with us. She looked at me with a smile and remarked on how slender I got. These days, when I get depressed, I lose my appetite and don't eat so much. It reminds me of her and how it felt nice to be noticed. Sometimes I wish I was depressed more often so I could lose weight. There's comfort in being what we know.
Je veux pas divulgâcher, mais c'est sûr qu'on sent aussi que malgré toute la force que cette personne-là, elle possède en elle, puis on le ressent, hein, tu disais, c'est la femme moderne qui a pas besoin de personne, qui sait ce qu'elle vaut. Ben, il y a toute cette pollution liée à c'est quoi être une femme ou être perçue comme une femme dans la société, toutes les questions qu'on peut se poser une fois qu'on est dans le silence. Est-ce que j'étais correcte? Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'avais l'air folle? Est-ce que j'avais l'air ci? Est-ce que j'avais l'air ça? Puis, au final, on comprend que même une personne saine d'esprit, ancrée, qui a confiance en elle, éventuellement va faire face à toutes ces questions qui sont systémiques, en fait.
Why is everything I suggest not interesting enough? I can do that for you. I will do this for you. Hurts me and consume my body. I can feel in these moments my guts contracting. I'm paralyzed. I challenge him to a game. Pinch its thorax between your thumb and forefinger until you feel a little.
D'être avec la personne et de ne pas être ton spectateur, c'est clairement la clé de la narration de mon film. J'avais vraiment envie d'immerger le spectateur ou la spectatrice avec Angela. Et ça, ça fait partie du female gaze. C'est vraiment une approche cinématographique, une façon de regarder le monde, en fait, finalement, qui est différente. Et là où je trouve que c'est essentiel de s'intéresser au female gaze, c'est qu'encore une fois, c'est la représentation de demain. Je veux dire, le cinéma a tout intérêt justement à sortir en fait du male gaze. Les images nourrissent nos imaginaires et il faut absolument qu'on sorte en fait des films qu'on voit encore et toujours. Et moi, ça c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'engager à 300% aujourd'hui. Ces approches-là, elles sont là depuis la nuit des temps. Mais le fait de venir les conceptualiser, ça nous permet de les conscientiser en fait et de créer des nouvelles représentations pour demain. Et moi, je pense à mes nièces, je pense à toutes les petites filles aujourd'hui, et on a tout intérêt à leur créer des nouveaux imaginaires en fait pour leur mieux-être.
Le tournage du projet Limné, il a duré 3 étés dans les lacs du Québec. Ça a quand même été beaucoup de rencontres, tu le racontais tantôt, puis beaucoup de hasard aussi au gré de la météo, selon qu'est-ce qui fitait, qu'est-ce qui fitait pas. Tu retiens quoi de toutes ces rencontres d'inconnus?
Ça va être un peu naïf de répondre ça, mais le premier mot qui me vient, c'est la liberté. Moi, je me suis sentie libre. Mais j'ai vu des personnes libres en face de moi, vraiment. Enfin, je veux dire, si Limné, je pouvais continuer toute la vie, je le ferais, quoi. Genre, j'ai tellement aimé le faire. C'était fou, c'était tellement puissant. C'était dingue. Ça a duré 3 ans, en fait, parce que on se rend pas forcément compte. Mais la mise en place, déjà, elle est quand même assez conséquente. Enfin, il y a beaucoup de choses en termes de sécurité à penser. L'autre chose aussi, c'est que moi, en tant que photographe sous-marine, hein, du coup, j'ai pas l'opportunité de photographier des groupes de personnes tous les jours. Il y avait aussi beaucoup d'expérimentation en même temps que la prise de vue réelle. Et ça, c'était parfois très perturbant parce qu'il y avait des choses que j'avais envie d'essayer, de tenter, de tester. Et en même temps, c'était le jour même où je faisais... Enfin, j'avais pas d'autres possibilités. C'est énorme en termes de contraintes. Et puis en termes de sécurité, il fallait forcément qu'il y ait toujours une ou deux personnes qui m'accompagnent pour vérifier que tout le monde aille bien, pour faire attention qu'il n'y ait pas d'hypothermie, de s'assurer que le feu soit toujours alimenté justement pour contrer les hypothermies. J'ai été vraiment très entourée. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont entourée sur ce projet parce que c'est clairement impossible de faire ça seule.
ta démarche artistique, elle se situe vraiment à mi-chemin entre le documentaire et la mise en scène. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, dans cette frontière que tu viens justement investir?
J'ai l'impression que ça fait profondément partie de moi, c'est-à-dire que j'ai jamais créé autrement. J'ai vraiment une démarche qui est purement documentaire, mais pour autant, parfois j'ai cette pulsion, en fait, ce besoin de venir mettre en scène, soit pour désamorcer quelque chose, soit pour justement venir pointer un sujet ou une action du doigt. Justement, j'imagine que c'est par rapport à mes engagements, par rapport à mes valeurs et au fait de vouloir porter ma voix. Après, cela dit, je les distingue de plus en plus. Et là, dans les projets que je fais actuellement, il y a la partie documentaire et la partie plus mise en scène. Et j'aime bien aussi cette nouvelle approche. Pour l'hymné, on pourrait croire que c'est complètement de la mise en scène, mais au final, c'est quand même des personnes qui ont débattu de ce sujet-là avec moi avant de s'immerger. Et c'est des personnes, en fait, qui sont rentrées dans la peau des limnés, mais pour qui il y avait forcément un enjeu à un moment donné. Un enjeu d'ordre personnel, je crois. Et c'est là où, la frontière, elle devient floue.
Esther Calixte Béa a découvert à l'adolescence qu'elle était très poilue. Dans un contexte où la pilosité des femmes est synonyme de honte et rattachée à une virilité qui doit demeurer l'exclusivité des hommes, l'acceptation de son corps a vraiment pas été immédiate. Par chance, l'artiste d'origine haïtienne et ivoirienne possède en elle une force créative qui l'a menée à partager à grande échelle sa réalité corporelle en ligne, ainsi qu'à l'inclure dans ses œuvres qui mêlent peinture, photo, sculpture, poésie et textile. C'est en partant de sa propre représentation que la créatrice multidisciplinaire conçoit des scènes colorées où les femmes noires sont libres, puissantes et prospères. Je vous propose une incursion dans son univers résilient et ludique.
J'aimais beaucoup comme dessiner des mangas et des trucs de même. Donc, mes parents m'achetaient des livres, genre les Sailor Moon et tout ça. Donc, j'aimais vraiment dessiner ça. Puis là, mes parents, ils ont vu que j'aimais vraiment l'art. Donc, après, ils m'ont mis dans un programme en art visuel quand j'étais au secondaire. Puis, parce que je me disais que j'allais devenir comme, que j'allais un jour faire des bandes dessinées. Puis là, quand je suis arrivée à l'école, dans le programme en art visuel, c'est là que j'ai commencé la peinture. Puis j'étais comme, oh my god, je vais devenir artiste! Comme j'aime trop ça! Puis ça continue à être ma passion. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je fais pas juste la peinture maintenant, mais le dessin a vraiment commencé à vraiment rentrer dans ma pratique, je trouve, l'année passée. Puis c'est vraiment, je suis en train de mettre les deux ensemble. Puis là, il y a aussi le textile, plus quand je couds des costumes pour les personnages que je crée, et la photo aussi qui sort toujours avec le textile. Des fois, le textile est aussi dans la peinture, mais souvent, c'est comme je crée un projet ou que je crée un costume pour un personnage.
Oui, j'avais eu l'occasion de voir certaines de tes toiles, et en effet, c'est en trois dimensions, parce que parfois, il y a vraiment du tissu qui semble sortir de tes tableaux, c'est ça souvent les vêtements de tes protagonistes ou un effet de texture, donc c'est pas, en effet, c'est pas juste de la peinture. Dans ton art comme dans la vie, tu confrontes beaucoup les standards de beauté de plusieurs manières possibles. Ton histoire personnelle t'a d'abord en fait mené à aborder le sujet de la pilosité féminine, ça s'est imposé à toi. Est-ce que tu as envie de nous parler de ton parcours avec ton propre corps, puis pourquoi tu as voulu vraiment investir ce tabou de front?
Ouais, pour moi, le tabou de la pilosité féminine, c'est vraiment important dans mon travail à cause de ma relation avec mon corps depuis que j'étais jeune, puis aussi en tant que femme noire. Vu que la beauté en tant que femme, c'est quelque chose qu'on pense à la beauté chaque jour de notre vie, tu sais, puis c'est quelque chose qu'on apprend dès notre jeune âge. Quand j'avais des poils, comme je me rappelle, j'avais à peu près 11 ans, j'étais, tu sais, je me rappelle avoir vu mes poils pour la graduation. Je voulais porter une robe qui était un peu décolletée, puis j'avais un peu de poils sur ma poitrine, donc je me rappelle qu'on est allé enlever les poils, puis c'était des choses qu'on faisait, c'était pas quelque chose que je questionnais. C'est plus tard, quand je commençais à voir que, tu sais, en tant que femme, on est supposé enlever nos poils, mais je commençais à en avoir plus, puis que mes poils grandissaient rapidement. Je me disais, si en tant que femme, on n'est pas supposé avoir de poils, pourquoi ça n'arrête pas de grandir? Donc pour moi, c'était comme si ma pilosité était une malédiction. Tu sais, j'aimais pas le fait que j'étais poilue, mais en même temps, je voulais pas me raser. Mais j'étais obligée de le faire. Donc, c'est sûr que pendant l'hiver, c'était la meilleure saison pour moi. Puis en plus, avec les poils incarnés, les cicatrices, et, par exemple, sur ma poitrine, c'était, la peau était plus sensible. Tu sais, quand j'enlevais les poils là, c'était vraiment comme, je pouvais pas porter certains tissus. Tu sais, j'allais avoir beaucoup de boutons et ça allait devenir vraiment rouge et puis j'allais avoir des gros poils incarnés. J'ai commencé un peu à questionner ça quand j'étais au cégep. Tu sais, à travers la peinture, des fois, j'avais peint une toile qui s'appelait « Il faut souffrir pour être belle » ou que je m'étais peint avec une rose qui sortait de mon corps, parce que c'était une phrase que ma mère, ma tante me disait tout le temps quand je devais enlever mes poils. Ça faisait tellement mal, puis je comprenais juste pas cette notion de « je dois souffrir pour être belle », comme je comprenais juste pas ça. Donc, j'avais un peu questionné ça quand j'étais au cégep, mais c'est vraiment plus à l'université. Quand j'enlève mes poils, j'en ai encore plus. C'est comme si mon corps se battait contre moi, genre on était comme en combat là. Et donc c'est vraiment plus tard quand j'ai commencé à travailler sur moi-même et je m'étais dit vraiment, je me suis réveillée, je m'étais dit ok, c'est comme j'ai des poils, je dois accepter que j'ai des poils, que je suis poilue. Puis vu qu'il y avait aussi le mouvement de body positivity qui commençait avec des femmes qui sont plus, tu sais, qui ont des courbes, qui sont pas minces, tu sais, pas obligée d'être mince pour être belle, etc., etc. Donc je voyais comme il y avait beaucoup plus de femmes qui se réveillaient un petit peu. Et donc ça m'a un peu inspirée aussi, mais c'est sûr que je voyais pas vraiment beaucoup de femmes qui s'assumaient en termes de la pilosité, si c'était pas genre, on va dire, tu sais, des femmes blanches qui assumaient des poils sur leurs jambes ou on voyait pas comme du poil beaucoup sur le visage ou comme sur la poitrine. Donc c'était pas quelque chose que je voyais. Donc c'est sûr que il y a personne qui sont en train de montrer. Donc, tu te sens comme si tu es la seule personne. Même si tu dis c'est impossible que tu es la seule, mais tu te sens comme si tu es seule. donc, c'est ça. Donc, à travers ça, quand j'ai commencé à travailler sur moi, quand j'ai commencé un peu à réfléchir, c'est là que j'ai commencé à réaliser, tu sais, cette idée que de détester ma bilosité, ça vient pas de moi. Et donc, ça vient de la société. Puis, on sait comment ils sont en train de profiter de nos insécurités. Ils inventent des choses qu'on devrait détester pour notre propre corps pour nous donner une solution qu'ils inventent pour qu'ils puissent faire de l'argent à la fin de la journée. Je m'étais dit en tant qu'artiste que je pouvais créer un projet de lavande que j'ai créé, qui parle de ce problème, de ce tabou de la pilosité féminine. Et de la féminité aussi. Les femmes ont du poil, donc ça veut dire quoi? Donc c'est pas féminin, c'est pas beau sur notre corps. Après ce projet, j'avais fait une robe mauve, j'avais porté cette robe en montrant les poils sur ma poitrine pour la première fois. Et je l'avais publiée sur Instagram. Toutes les femmes à travers différents pays qui me contactaient parce qu'ils pensaient que j'étais les seules avec du poids sur la poitrine. Donc, d'un certain sens, le projet les avait guéris ou les avait fait réaliser qu'ils ne devraient pas avoir honte de leur pilosité et qu'eux aussi pouvaient être belles avec leur pilosité. Parce que moi, vu que je faisais un peu de mannequinat avant ça aussi, le fashion et poser, j'aimais faire ça à travers la photo. Donc, j'utilisais cette même passion que j'avais pour prendre des photos d'une façon comme belle, élégante, en montrant ma pilosité. Puis depuis, c'est là que je m'étais dit que c'était vraiment important de représenter la pilosité féminine dans mon art.
C'est super pertinent. Il y a tellement de choses qui me viennent en tête par rapport à ce que tu as dit. Autant l'aspect capitaliste de la beauté, c'est-à-dire toujours payer pour rentrer dans un standard, pas accepter quelque chose qui est 100% naturel, qui est « je suis un être humain, il y a des poils qui me poussent sur le corps, on peut-tu les accepter? » Puis en plus... cette pilosité accrue chez toi, elle s'explique par tes origines génétiques, donc ça fait partie de ton héritage et il y a quelque chose de complètement contre-intuitif de se battre contre un héritage, de le refuser, alors qu'au contraire, je pense que tu as vraiment réussi à comme le mettre en valeur puis en faire une fierté. Tu parlais justement de ton projet Lavande qui est un projet photographique. Puis aujourd'hui, sur ton compte Instagram qui est dédié à ton activisme, t'as plus de 110 000 abonnés qui te suivent. Moi, je sais que t'avais fait aussi la couverture du magazine Glamour en 2021, Glamour Royaume-Uni, où est-ce qu'on te voyait dans une super belle photo violette, lavande, avec tes poils. Et donc, sur ton compte, encore aujourd'hui, tu sensibilises les gens au fait que on peut être une femme, on peut avoir des poils, il n'y a rien de dégueulasse, il n'y a rien de laid. On ne dirait pas de telles choses pour la pilosité chez les hommes, alors pourquoi on le dit chez les femmes? Comment tu t'es sentie quand tu as assumé ça pour la première fois?
Premièrement, j'avais vraiment peur. Mais je t'ai dit, tu sais, moi, j'étais vraiment déprimée, j'étais dans... sais, mentalement, j'allais pas bien. J'étais obligée de prendre cette décision parce que je me disais, est-ce que pour le restant de ma vie, je vais me détester ou je vais juste me réveiller, m'accepter comme je suis et avancer de là. C'est arrivé en ligne en premier, mais tu sais, j'ai dû, après ça, commencer à sortir avec ma pilosité aussi, d'aller dehors avec, pour la première fois aussi, avec un chandail un peu décolleté, sortir en short, etc., etc. Donc, ça, c'est sûr que ça fait très peur parce que le regard des gens, c'est quelque chose qui nous empêche aussi à s'assumer beaucoup. Quand je l'avais fait, j'étais comme, OK, tu sais, je suis capable. Et donc, en même temps, je suis capable de montrer aux autres que c'est possible. Parce que c'est sûr que tu peux pas faire un choix comme ça si tu l'as jamais vu. Par exemple, j'ai des messages où des femmes me disent, oh, si je t'aurais vu quand j'étais jeune, ça m'aurait tellement sauvé la vie. Même si que c'est pas trop tard, mais c'est au point pour dire qu'il y a des gens qui ont juste besoin de voir ça. Ils avaient besoin de voir ça. Et aujourd'hui, ils ont besoin de voir ça pour pas se sentir comme s'ils sont comme différent quand la plupart des femmes enlèvent leur poil. Puis même quand on a des petites conversations avec nos amis, qu'on apprend qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de poils sur le visage, etc., qui enlèvent leur moustache, genre t'es comme, OK, donc c'est comme si on fait tout semblant d'être sans poils, mais en réalité on est très poilu, tu sais. Je suis comme juste vraiment contente que j'ai pu les aider à travers mon contenu, mais à travers mon art aussi.
Oui, tu as vraiment participé à normaliser ça pour la communauté que tu as réussi à rejoindre, c'est sûr et certain. Ça a beaucoup inspiré ton art depuis plusieurs années, mais dans les 3, 4 dernières années, on a vraiment vu surtout tes toiles qui présentent une ethnie fictive. C'est des femmes noires et poilues qui célèbrent leur individualité à travers leurs habits, leurs accessoires, leur coiffure, leur lien avec la nature et leur lien aussi entre elles, leur lien de sororité. Est-ce qu'on peut considérer un petit peu cet espace imaginaire comme un lieu de guérison et de célébration de ces corps qui sont dissidents finalement?
Oui, ben pour moi, cette ethnie que j'ai créée, l'ethnie Fiété-Sauté, c'est vraiment une célébration de ce corps-là. Parce que c'est sûr que quand je suis devenue activiste, je savais pas que ça venait de mes origines. Tu sais, je savais pas. Et c'est vraiment plus tard qu'une de mes tantes m'a contactée de la Côte d'Ivoire pour me dire que dans notre famille, les femmes sont vraiment poilues. Puis que ça vient de nos origines, de ma tribu. Ouais. J'étais tellement heureuse d'entendre ça, mais j'étais aussi un peu déçue parce que je me dis, tout ce combat que j'avais, et je savais même pas que ça faisait partie de moi, je savais même pas que ça faisait partie de mes origines, je savais même pas que ça faisait partie de notre famille. C'est là que je voulais créer cette ethnie fictive où des femmes célèbrent leur pilosité parce qu'elles me disaient, dans le temps de mon arrière-arrière-grand-mère, la pilosité sur le corps de la femme, c'était quelque chose de beau, c'était quelque chose de féminin, c'était quelque chose qui voulait dire aussi qu'elle était fertile ou mature, elle était devenue une femme maintenant. Donc, c'était quelque chose qui était une bonne chose sur le corps de la femme. Et donc, aujourd'hui, c'est sûr, à cause de la colonisation, la plupart des femmes africaines aussi enlèvent leur pilosité. À travers cette ethnie fictive, je m'étais dit que je voulais représenter la femme avec toute sa beauté naturelle, mais aussi exprimer son individualité, sa créativité à travers ses coiffures, parce que aussi, à travers la colonisation, on a perdu aussi toutes les informations sur nos cheveux pour faire en sorte que nos cheveux grandissent. En termes de, avant la colonisation, la coiffure, c'était tellement important. Ça voulait dire d'où quelqu'un venait. Ça voulait dire plusieurs choses. Et donc, on sait qu'à travers l'esclavage, le colon rasait la tête de chaque personne pour comme enlever son identité, pour effacer son identité. Et aussi, il changeait le nom de chaque personne aussi. Je veux montrer la beauté de nos cheveux, parce qu'aujourd'hui aussi, en tant que femme noire, quand même s'il y avait un mouvement de natural hair, il y a beaucoup de femmes encore qui ont de la difficulté à prendre soin de leurs cheveux ou qui détestent leurs cheveux naturels et qui veulent juste avoir des cheveux droits.
Dans le fond, c'est vraiment des représentations qui vont à l'inverse de l'eurocentrisme hégémonique qu'on voit tout le temps. C'est vraiment, c'est ça, c'est les femmes noires qui sont des héroïnes, qui s'assument, qui essayent pas non plus de se plier à un carcan, à des codes qui sont pas les leurs. Comment ça se passe un petit peu dans ton processus créatif? C'est quoi qui vient te donner de l'inspiration? Comment est-ce que tu imagines ces scènes avec ces femmes-là dans la nature, en communauté?
Quand je vais en Afrique et en Côte d'Ivoire, que je vois vraiment la communauté, c'est vraiment important. Et comme mon père me raconte des histoires sur sa famille, donc je vois comment, tu sais, à comparer au monde occidental, c'est vraiment différent. Et que la communauté est super, super importante. Et donc, c'est quelque chose que je voulais aussi ramener dans cette ethnie. Parce que c'est sûr que pour moi, ma communauté, c'est ma famille. Et c'est grâce à eux que je suis aussi une artiste. Parce qu'ils ont vu que j'aimais ça, puis ils m'ont poussée dans cette direction. Quand je décide de créer, c'est vraiment, je m'assois puis je commence à réfléchir. Dans mon imagination, je vois que des gens sont placés, puis j'essaie un peu de recréer ça, mais de ma propre façon. C'est sûr que je prends l'inspiration de mes voyages et quand je regarde la nature aussi, puis à travers des livres de coiffure africaine ou de ethnie africaine, j'essaie de prendre l'inspiration là-bas aussi. Quand je commence à le placer sur la toile, c'est là que ça devient plus spontané, la couleur, c'est vraiment dépendamment de comment je me sens, est-ce que j'ai utilisé cette couleur. Mais souvent, il y a beaucoup les mêmes couleurs parce que c'est des couleurs que j'aime. Parce que je trouve que je suis quand même sensible aux couleurs. Moi, je suis une personne très, très colorée. J'ai un peu sentir quelle couleur que j'ai utilisée dépendamment des personnages. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cette couleur, des fois. Moi, c'est comme, OK, je trouve que ça, c'est une bonne couleur pour une personne qui est la chef ou par exemple. C'est vraiment comme j'invente, honnêtement. C'est vraiment là que je m'étais dit que, en tant qu'artiste, je pouvais inventer ce que je voulais. Et j'ai vu ça seulement quand j'ai commencé à garder mes cousins, mes petits cousins, parce qu'ils me montraient leurs dessins. Puis là, il y avait un de mes cousins, il était très sérieux quand il montrait ses dessins. Il regardait ma réaction parce qu'il avait peur que je le jugeais. Puis il y avait un de mes cousins, il dessinait tout ce qu'il voulait. Il me montrait un dessin, j'étais comme, c'est quoi ça? Il me dit, c'est des Timbits. Des Timbits avec des jambes et des bras, puis ils trouvaient ça tellement drôle. C'est comme si je voyais deux artistes, deux différents artistes. Un artiste qui prend trop ça au sérieux, trop ça à cœur, un peu peur du jugement. Puis l'autre artiste qui faisait tout ce qu'il voulait. Il imaginait quelque chose, il dessinait, tiens, c'est un Timbits avec des bras et des jambes. En tant qu'artiste, des fois, à cause de l'école aussi, on perd cette imagination qu'on avait en tant qu'enfant. Et donc, je veux créer mon propre monde. Parce que dans les films, ils ont ce droit de créer un monde qui n'existe pas. Et moi aussi, je voulais me donner ce droit à travers l'art. Pour moi, ça serait un monde parfait, un monde où que moi, je pense que je serais accepté, un monde que... C'est ça, cette liberté qu'on a en tant qu'artiste aussi. Et moi, je suis vraiment contente d'être artiste. Parce que si je serais pas artiste, je sais pas si je serais cette personne que je suis aujourd'hui. Je voulais vraiment amener cet aspect aussi de nature dans mes œuvres. J'imagine qu'un monde avec où qu'il y a de la paix, c'est qu'un monde où qu'on est vraiment connecté à la nature, tu sais, qu'on est dans la nature. Donc c'est un peu ça que je crée un peu dans mes œuvres, cet aspect de communauté, cet aspect de, comme tu as dit aussi, de guérison. Je trouve ça, c'est vraiment important de guérir et des fois, en parler, ça nous aide à guérir.
Ben c'est sûr qu'en parlant de communauté, ça a des liens avec toutes les disciplines artistiques auxquelles tu touches, parce que autant toi-même, ta propre représentation en ligne, quand tu sensibilises les gens au fait qu'on peut avoir de la pilosité en tant que femme, mais aussi ta communauté, cette communauté fictive que tu représentes. Tu as eu l'occasion de multiplier les expositions les dernières années pour présenter tes toiles. Je serais curieuse aussi de connaître un petit peu la réaction de ton public.
Ouais, commentaire de public quand j'ai des expositions, c'est sûr que j'ai jamais eu des gens qui m'ont dit quelque chose d'horrible. Tu sais, quelque chose d'horrible, ça arrive juste sur l'Internet. T'sais, la plupart des gens vont jamais te dire quelque chose d'horrible dans ta face, ils vont juste aller dans l'expo puis vont partir. Ça les intéresse pas. Et ça, c'est correct. Ce que je fais, c'est pour moi, mais aussi pour les gens qui en ont besoin. Comme si toi, t'as pas besoin de voir ça, ben c'est pas pour toi. Les réponses que j'ai eues aussi de beaucoup de femmes, c'est qu'ils étaient vraiment heureuses de voir cette représentation, qu'eux étaient vraiment poilus, donc ils se sentaient vraiment bien de voir finalement des femmes poilues dans les peintures. C'est comme si ça les aidait beaucoup, qu'ils aimaient vraiment ça. Puis des fois, il y a des femmes qui montraient leur poil, qui me montraient leur poil, comme regarde, j'ai beaucoup de poils sur mes bras, puis genre, j'aime vraiment ce que tu fais. Donc c'est vraiment ce genre de commentaires que je reçois. Ça t'aide aussi à accepter les autres de voir des corps différents, parce que même toi, en tant que personne, tu vois le même corps, tu vois ça, c'est beau. Puis là, quand tu vois d'autres corps, t'es comme, mais eux aussi, ils existent. Puis ça n'a pas de sens qu'on voit toujours les mêmes corps à la télé ou dans les magazines. Tu sais, ça n'a pas de sens, c'est pas réaliste. À part, les gens sont pas toutes minces. Puis même moi, même si moi, je suis mince, dans ma communauté, être mince, c'est pas une bonne chose. Donc, chaque fois que je voyage en Afrique ou voir ma famille, ils vont commenter sur mon corps. Ils vont dire que je mange pas. Je travaillais dans des magazines de vêtements. Il y a des femmes qui sont comme, oh, t'es tellement chanceuse que t'es mince. Mais là, moi, dans ma communauté, c'est pas une bonne chose. OK? Je m'en vais en Haïti, ma famille dit que je mange pas. Je m'en vais en Côte d'Ivoire. C'est toujours la même chose, là, pour moi. Donc, c'est comme, c'est sûr que dans différentes cultures, il y a différents standards de beauté, puis on doit juste accepter le fait que les femmes viennent dans différentes formes, qu'on n'est pas toutes minces, on n'est pas toutes, c'est avec des courbes, des choses comme ça. Donc, c'est comme, qu'on doit juste accepter le fait qu'on doit pas vouloir, en tant que femme, genre, fit dans une boîte. C'est la diversité, et c'est beau qu'on devrait pas vouloir tous se ressembler.
Qu'est-ce que ton art t'a permis de comprendre?
C'est sûr qu'en tant qu'artiste, on cherche notre propre voix, on cherche notre propre identité. Des fois, c'est difficile, il y en a qui la trouvent rapidement, il y en a que ça prend du temps. Et pour moi, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais j'ai dû m'assumer pour retrouver mon identité artistique. Pour moi, quand je fais de l'art, c'est un peu comme un processus de guérison aussi. Comme je me guéris à travers tout ce que j'exprime, à travers des toiles que je fais, et j'espère que ça va guérir d'autres. Qu'est-ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'il y a des gens qui sont pas prêts à questionner des choses. En fait, on est en train de sélectionner qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, quand c'est juste des poils. Si moi, je vois du contenu que j'aime pas, je change, je veux pas regarder ça. Mais pourquoi toi, tu sens le besoin d'insulter la personne ou de, tu sais, de la rabaisser avec tes paroles, comme si la personne, elle est pas humaine puis elle voit pas ses commentaires-là, tu sais. J'apprends qu'en tant qu'artiste, on se met beaucoup de barrières invisibles. Puis on se dit, on devrait pas faire ça. Puis je trouve, à travers, quand tu voyages, ça t'aide aussi à enlever ces barrières. Parce que tu vois qu'est-ce que d'autres artistes sont en train de faire, sont en train de créer. Et c'est là que tu vois vraiment cette liberté. Puis peut-être à cause de l'école qu'on a ces barrières-là. À cause de l'école qui nous montre que ça, c'est les meilleurs artistes. Puis c'est ça. Puis si tu fais autre chose qui est un peu différente, des fois, ils vont te juger, ils vont dire, c'est pas comme ça une peinture devrait être. C'est pas comme ça que ça doit ressembler. Ça nous fait peur d'aller contre ces règles dans l'art aussi. Mon propre parcours, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup dans mon art. C'est sûr, ça m'inspire constamment. J'aime être dans mes œuvres parce que je sais que c'est important à voir. Parce que même quand j'étais petite puis j'allais au Musée des Beaux-Arts depuis que j'étais au secondaire, je voyais pas vraiment beaucoup de femmes qui me ressemblaient dans le musée. Tu sais, il y avait peut-être une peinture d'une femme haïtienne, je pense, là-bas. Comme il y a pas beaucoup de diversité dans le musée. Donc, moi, j'existe et que des femmes poilues existent. Ils ont leur place aussi, spécialement en l'art. On a notre place dans le musée aussi. En tant que noir, il n'y a pas beaucoup d'autres artistes noirs autour de toi quand tu es à l'école. Donc, des fois, tu n'es comme pas trop sûr quand tu es en train de peindre des femmes qui te ressemblent, des personnes qui te ressemblent. Il y a ce combat avec ton identité, il y a ce combat personnel. Tu sais pas vraiment quoi faire. Quand les professeurs montrent des artistes, ils montrent pas beaucoup d'artistes noirs. Donc, tu es un peu comme genre confus. C'est sûr que tu vas faire ta propre recherche, mais quand tu es à l'école, tu te dis c'est là que tu vas recevoir toutes les informations. C'est devenu quelque chose que je vois vraiment l'importance de la représentation. C'est être humain, c'est l'excellence humaine que je représente aussi dans mes œuvres.
J'étais curieuse de savoir, est-ce qu'il y avait des artistes qui t'avaient inspiré, influencé?
Kerry James Marshall, à cause de la façon qu'il peignait les femmes noires, et Kent Monkman, à cause de son personnage qu'il a créé et la façon qu'il parle du colonialisme et de la souffrance que les Autochtones sont passés à travers, à la façon qu'il peint, la façon qu'il crée. Donc, ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Aussi, à cause qu'il utilise souvent la peinture à l'acrylique. Vu que quand t'es à l'école, les gens essaient vraiment beaucoup de te convertir vers l'huile. Quand je voyais ces peintures de Kent Monkman, j'étais vraiment inspirée de continuer avec l'acrylique parce que je me sentais comme si on devait tous convertir vers l'huile. Et donc ça m'a beaucoup inspirée, les paysages qu'il créait. Mais aussi une artiste montréalaise qui m'a inspirée, qui est haïtienne, c'était Malicious aussi, parce que j'aimais beaucoup la façon qu'elle s'exprimait, la façon qu'elle utilisait les couleurs.
Vous venez d'écouter Sous la fibre, un podcast créé et réalisé par Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Béat et Yvan Vendret. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit. Les détails se trouvent dans la description de l'épisode. Un immense merci aux artistes pour leur partage et leur confiance. Pour m'aider à faire rayonner Sous la fibre, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à l'infolettre qui vous offre plus de contenu sur l'art visuel et la créativité. En plus d'avoir un accès aux coulisses du podcast, c'est gratuit, un lien se trouve dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, à bientôt.